Bonjour à toutes et tous. C'est avec une certaine excitation et un peu de peur que je vous retrouve pour cette nouvelle série de podcasts. Je me lance dans un jeu de construction, autant dans le fond que dans la forme. Dans le fond, en fait, j'aimerais construire mon utopie. J'aimerais penser une organisation collective qui favorise l'épanouissement de nos singularités. Pour ce faire, j'ai envie d'utiliser le questionnement, ce questionnement qui m'est si cher, et aller chercher des gens qui peuvent m'éclairer sur les différents aspects de déjà comment construire mon utopie, quelles questions me poser, et ensuite comment la remplir, je dirais, réfléchir sur tous les aspects de ce qui fait société pour nous. Dans la forme, pour l'instant, ça va être assez libre. Je vais aller à la rencontre donc, de différentes personnes qui, je pense, peuvent répondre à mon questionnement. Et puis, je me dis que c'est peut-être l'occasion aussi de regarder comment construire chacun de nous notre utopie. Parce que, bien sûr, je n'aurais pas l'arrogance de penser que la façon dont moi je pense, avec mes biais cognitifs, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie et qui fait que j'ai une certaine vision du monde, qui n'est certainement pas toutes les visions du monde, je me dis que peut-être, parallèlement, je réfléchirai à comment chacun de nous peut construire son utopie, comment on construit une utopie. Et puis, je compte aussi sur vous. Sur vous, non pas pour me donner des réponses, vos visions, parce que je sens que je pourrais être complètement ensevelie par les visions des autres, mais plutôt pour m'aider à me poser les bonnes questions. Quelles questions devrais-je me poser et qui devrais-je aller rencontrer pour répondre à ces questions ? Donc quand on s'est donné une ambition aussi grande que celle de construire un système, et je vous le dis pour l'instant, mon intuition c'est que ça va être pour le monde carrément, puisque aujourd'hui on est face à des défis écologiques, et bien sûr l'air, l'eau, notre environnement n'a pas de frontières, donc je ne vois pas comment ça pourrait être une utopie très locale, donc je me lance sur un chemin très ambitieux. Et naturellement, pour commencer, je me sers de ce dont je me suis toujours servi dans la vie, des synchronicités, comme on les appelle, des petits hasards. Et pour ce premier épisode, les petits hasards m'ont mené à Sandrine Roudot. Quand je faisais ma série de podcasts sur le savoir-être au travail, j'avais déjà Sandrine dans mon collimateur. Donc je voulais la rencontrer, je voulais l'interviewer. Et il se trouve que je faisais des photos à Paris sur un événement où elle intervenait. Donc je me suis dit, formidable. En arrivant à cet événement, je tombe nez à nez avec une femme. Et toutes les deux, on se reconnaît, mais sans vraiment savoir d'où on se connaissait. Et puis, en cherchant un peu, en creusant, il se trouve que je me trouvais face à Sandrine Roudot, que je connaissais, puisqu'elle m'avait assistée sur une turbine à bonheur il y a quelques années chez un client. Formidable, elle accepte de faire un podcast avec moi. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, j'étais près d'Angoulême dans ma voiture. Et j'allume la radio et je tombe sur France Bleu ou France quelque chose, France Culture peut-être. Et j'entends, et maintenant nous recevons Sandrine Roudot. Puis quelques jours plus tard, de retour chez moi, je trie des vidéos, j'ai fait beaucoup de montage vidéo à une époque. Et je tombe sur une vidéo d'un forum ouvert que j'avais filmé. Et là, qui je vois dans le public ? Sandrine Roudot. Alors bien sûr, c'est anecdotique, mais pour moi, ce sont des clins d'œil. Surtout quand on sait que Sandrine a écrit deux livres sur les utopies. Le premier s'appelant « L'utopie mode d'emploi » et le second « Les suspendus ». Donc ça avait tout son sens que je commence cette série de podcasts avec Sandrine. Retrouvons-la tout de suite. Chose. Alors, je voulais commencer avec toi déjà en te posant directement des questions. Habituellement, j'explore un peu le passé des invités, mais directement avec ce mot « utopie ». Parce que souvent, l'utopie, c'est quelque chose d'irréel, c'est un peu... c'est les rêveurs qui ont des utopies. C'est quoi une utopie ?
Mais en fait, une utopie, si on revient à l'étymologie, parce que moi j'aime bien questionner les mots, je pense qu'ils ne sont pas là par hasard, et d'autant plus quand ce sont des mots qui sont dérangeants, sur lesquels on ironise, etc. Et en fait, l'étymologie d'utopie, donc, c'est utopia, c'est-à-dire qui n'a pas de lieu. C'est donc simplement quelque chose qui est irréalisé. Et nous, on l'a traduit par irréalisable. En fait, une utopie, c'est simplement quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister un jour. Et c'est aussi pour ça que ce mot m'intéresse, c'est pour la déformation qu'on en a faite. Parce que finalement, ça, c'est assez révélateur de qui on est, c'est-à-dire des gens qui ne s'autorisent pas à imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est quand même assez troublant ce malentendu qu'il y a sur le mot utopie. Et donc en fait, les utopies, c'est ce qui nous est arrivé de mieux, en fait. Tout ce qui peuple nos vies, que tu prennes n'importe quel droit très important, comme le droit de vote des femmes, voilà, comme la sécurité sociale, comme la fin de la ségrégation, comme la fin de l'esclavage, mais aussi que tu prennes n'importe quelle innovation dans nos vies, comme l'avion, comme Internet, comme la voiture, comme le smartphone. Mais en fait, tous ces droits, toutes ces innovations, au moment où elles sont défendues, au cœur de leur époque, elles sont considérées comme des utopies,
Non, mais quand
puisqu'elles...
tu parles de l'avion, c'est pas une innovation. C'est marrant parce que, tu vois, je mettais pas tout ça, moi, sous le mot utopie.
Mais en fait, moi, ce que je mets pour utopie, quand on dit les gens qui au 18e imaginaient l'avion, on les traitait de quoi? D'utopistes? Tu veux voler dans le ciel? Mais t'es un utopiste. Voilà. Et en fait,
Mais
c'est
c'est
tout ce qui
vrai.
n'existe pas encore, tout ce qui est très grand. En fait, une utopie, c'est rêver grand. Mais c'est rêver grand par rapport à une époque qui est incapable de se projeter dans cet imaginaire-là. Et c'est là où il y a des gens qui sont un peu différents, qui arrivent, qui s'autorisent à rêver très grand à partir de rien finalement. Parce que l'avion, il n'a pas été inventé à partir de la voiture. De même que l'ampoule, elle n'a pas été inventée à partir de la bougie. C'est des gens qui veulent voilà, inventer une lumière super belle sur laquelle tu appuierais juste sur un bouton et ça arriverait. Bon, ben ça, à l'époque, c'était juste une utopie en fait. Donc c'est des gens qui sont capables de partir presque d'une page blanche pour imaginer quelque chose qui est inimaginable pour la majorité des autres.
Une utopie ne naît pas forcément en fait d'un mal-être.
Ah non, non, non. Non, non, une utopie, c'est simplement quelque chose que... C'est quelque chose qui n'existe pas et que tu as envie d'inventer. Alors après, Thomas More... Bon, donc ça, c'est un peu le... C'est comme ça qu'on l'a traduit. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, quand tu dis, oui, je veux, je sais pas moi, une agriculture sans pollution, on dit, ouais, mais t'es un utopiste. Voilà. Donc en fait, on l'a aussi... dévier son sens originel. Après, à côté de l'étymologie, il y a la personne qui a inventé ce mot, qui est Thomas More, qui était en 1515, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelait Utopia. Et en fait, ce livre, Utopia, c'est une île qu'il décrit, qui est une île qui est un idéal, et c'est là où on a transposé les utopies, c'est normalement forcément positif et forcément un idéal. Et en fait, il décrit cette île avec, à l'époque, il imaginait déjà le revenu universel de base, il imaginait beaucoup plus de divertissement que de travail, il imaginait l'égalité, il imaginait beaucoup de choses. Et en fait, cette utopie, son utopie, c'est une façon de critiquer le modèle dans lequel il était, c'est-à-dire le modèle économique de l'époque, le modèle religieux de l'époque, le modèle social. Et en écrivant Utopia, il a décrit une cité idéale qui n'avait rien à voir avec son époque, mais qui finalement était une contestation de son époque. Et c'est ça, c'est là où c'est le deuxième niveau de l'utopie, c'est que l'utopie, c'est forcément une contestation de l'époque. C'est forcément des gens qui sont en train de dire, il manque quelque chose dans cette époque, cette époque est intolérable et je veux autre chose. Et donc j'ai une utopie pour mon époque, pour mes semblables. Et c'est comme ça que voilà, et ça c'est le sens de Thomas More. Et la dernière chose sur l'utopie que j'aimerais ajouter, c'est que pour cette utopie, Thomas More a été décapité en 1534. Et en fait, il a été canonisé 400 ans plus tard. Et ça, c'est tout le sens de l'utopie, c'est-à-dire que dans l'époque, elle dérange. Il a été décapité parce qu'il remettait en cause un système politique, économique, social et des croyances religieuses. Et puis, il a été canonisé 400 ans plus tard parce que dans le futur, on honore toujours les utopistes. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui étaient clairvoyants et qui voyaient des choses beaucoup plus. Enfin, voilà, qui étaient capables de voir ce que l'humanité pouvait devenir.
Ça donne pas trop envie de répondre à ton appel au coming out de devenir utopiste.
Ça, par contre,
On
pour
peut en
être
perdre la
utopiste,
tête quand même.
Non, on ne veut pas perdre la tête. Par contre, on est sûr de ne pas perdre son cœur quand on est utopiste. Parce que ce qui est sûr, c'est que les utopistes sont forcément des gens qui sont en minorité. Il n'est pas donné à tout le monde d'abord d'avoir des utopies et ensuite de les promouvoir et de les faire advenir. Parce que pour ça, il faut accepter d'être dans la minorité, accepter voilà, d'être effectivement critiqué, méprisé. Comme des gens farfelus, des doux rêveurs qui soi-disant comment dire, ne sont pas des gens raisonnables. Or, c'est tout le contraire. Mais c'est vrai que dans l'époque, on dévalorise toujours les utopistes, jusqu'au moment où leur utopie devient une évidence. Et là, on les honore. Et tu prends ça pour tout, hein. Quand on était sur le droit de vote des femmes qui soutenaient leur droit au vote. Elles étaient méprisées par la grande majorité de la population, et notamment les autres femmes. Et elles étaient en minorité. Et quand tu regardes aujourd'hui, mais personne n'oserait remettre en cause la légitimité du droit de vote des femmes. Sauf que dans l'époque, c'est un truc qui est énorme, qui est insensé.
Toi, comment t'en es venu à t'intéresser aux utopies?
Alors en fait, bon, déjà je pense que j'ai toujours été une utopiste. Quand j'étais petite, je disais idéaliste, en tout cas on me traitait d'idéaliste. Et je l'ai mis un peu de côté, parce que effectivement, on ne peut pas dire que la société soit très, très sympa avec les idéalistes ou les utopistes. Donc j'entendais tout le temps, t'es trop engagé, t'es trop idéaliste, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es trop passionné. Voilà. Et à un moment donné, en fait, j'ai commencé à m'intéresser. Alors, cet idéalisme m'est revenu quand je suis devenue maman, puisque là, je me suis confrontée au monde dans lequel mes filles allaient grandir. Donc, j'ai vu tous les enjeux écologiques et tout ça. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est hors de question. Il est hors de question que j'accepte ce monde-là et que j'accepte de participer à ce monde-là pour mes enfants. Et donc le côté utopiste, c'est-à-dire cette idée de je ne me résigne pas et je crois en moi et je pense que je peux contribuer à un autre monde, là, ce petit sentiment m'est revenu très fortement. Je me suis lancée dans le développement durable pour aider des entreprises en fait, à changer de modèle. Avant, j'étais dans la pub et puis là, j'ai basculé dans le développement durable. Et puis au bout, donc avec, voilà, avec cette utopie d'avoir... De construire un monde qui ne nuise à personne, ni à mes enfants, ni à ceux qui sont à l'autre bout de la planète en train de fabriquer des t-shirts, voilà, dans des conditions pitoyables. Donc ça, c'était mon utopie, c'était de contribuer à un autre monde qui soit humaniste, qui soit respectueux du vivant. Et puis au bout de 10-12 ans, alors tout ça était, je me rendais pas trop compte, je parlais pas trop d'utopie à l'époque. Et puis au bout de ouais, une dizaine d'années d'accompagnement d'entreprise, je me suis pris un deuxième choc dans la figure et je me suis dit, mais en fait, ce que tu fais, Sandrine, ne sert à rien. Parce que je voyais des indicateurs de biodiversité, de réchauffement climatique, de raréfaction des ressources, les inégalités, et je me disais, mais c'est de pire en pire, en fait. Donc, ce que tu fais ne sert à rien, alors qu'on parlait de développement durable tout le temps. Donc, je me disais, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas dans cette histoire. Et en plus, je me disais, quand j'accompagne des entreprises, c'est considéré comme une contrainte, le développement durable. Et pour moi, or, pour moi, c'est inventer un monde magnifique. Et c'est à l'inverse extrêmement désirable. Et donc, je ne comprenais pas. Et puis, la troisième chose, c'est que je voyais bien que je déclenchais des sentiments extrêmement violents. C'est-à-dire que comme tous les gens, parce que j'ai commencé en 2001, donc à l'époque, on n'était quand même pas très, très bien vu. Et il suffit que tu arrives dans un repas chez des copains avec un vin bio, par exemple, et tu peux avoir des réactions très violentes. Je dis, mais j'ai rien dit, quoi. Je suis juste venue avec une bouteille de vin bio et tu t'en prends plein la tête. Et là, je me suis dit, il se passe des choses psychologiquement, de par ce que je représente, de par ce que je raconte visiblement, il faut que je comprenne. Que les réactions que je déclenche et pourquoi c'est si compliqué finalement de changer. Alors que moi, ce que je propose, c'est un monde qui sera meilleur pour leurs enfants et je suis bien sûre que mes amis, ils aiment autant leurs enfants que moi, j'aime les miens. Donc pourquoi eux, ils changent pas? Pourquoi ça, voilà, c'est. Donc j'ai voulu comprendre et donc je me suis arrêtée pendant un an et demi Et j'ai essayé de comprendre les freins au changement et aussi les freins à l'inspiration, c'est-à-dire pourquoi on s'autorise même pas à imaginer autre chose. Parce que le truc commence dès le début, quoi, dès cette espèce d'autocensure, non, non, il faut surtout pas espérer autre chose et surtout pas rêver grand. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai creusé partout, donc neurosciences, psychologie sociale, philosophie, les nudges aux États-Unis, enfin bon, tous ces trucs-là. Et là, je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner ce que je faisais, c'est-à-dire le développement durable, la RSE, la transition, la croissance verte, parce que j'ai compris les freins au changement, voilà, qui sont la peur, qui sont le sentiment de culpabilité, le sentiment d'impuissance, voilà, le manque de responsabilité et tout
C'est
un tas de...
bizarre que le sentiment d'impuissance, la solution au sentiment d'impuissance, c'est d'agir et en fin de compte, ça nous bloque.
Non, parce qu'en fait, le sentiment d'impuissance, il est omnipotent, c'est-à-dire que tu te dis, mais à quoi bon?
Ouais.
À quoi bon quand je vois les lobbies, quand je vois le fait que mon acte individuel a des répercussions collectives et qu'inversement, ce que font les autres ont des répercussions sur mon monde. Donc, quoi que je fasse, je subis le mauvais comportement des autres. Donc, en fait, t'as le sentiment d'impuissance, c'est peut-être, enfin, moi je crois que c'est le frein le plus important. Et face à ces freins, j'ai trouvé les leviers, donc qui sont d'autres sentiments à créer, d'autres, on va dire, d'autres pratiques à mettre en place. Et là, effectivement, j'ai confronté ces leviers que j'avais trouvés avec les recettes du développement durable ou de la transition. Je me suis dit, bah ok, je comprends pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, tous ces leviers, une fois que je les ai mis ensemble, je me suis dit, mais en fait, je sais ce que c'est, ça s'appelle l'utopie. Une fois que j'ai mis tous mes leviers ensemble, et je me suis dit, finalement, et le truc principal, ce qu'il y a dans l'utopie, c'est deux choses. C'est des objectifs radicaux, c'est-à-dire on ne fait pas du moins 15% de CO2, on abolit la pollution,
Oui, tu avais fait un parallèle avec l'esclavagisme, justement. On ne fait
Ouais.
pas moins 30% d'esclavagisme. On
Voilà, c'est ça.
abolit.
L'idée, c'est pas de faire un esclavage responsable. D'abord, ça n'a aucun sens, éthiquement parlant, humainement parlant, parce que la dignité, c'est forcément radical, de même que la vie sur Terre, elle est forcément radicale, et que se dire, quand on sait qu'il y a 48 000 personnes qui meurent de pollution de l'air par an en France, si on fait réduire 15% les particules fines, ça veut dire qu'on s'autorise, je ne sais plus combien, 36 000 décès par an. Ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, c'est juste humainement inacceptable. Donc déjà, tu as ça. Deuxièmement, qui est-ce qui va aller se battre pour des miettes de dignité? Ah, on va vous réduire les coups de fouet par quatre. Super. Personne ne va aller se battre pour ça. On va se battre pour un nouveau monde. On va se battre pour une autre, pour une dignité radicale. On va se battre pour un monde où l'air sera totalement sain. On va pas aller se battre pour moins 15% de particules fines. Donc en fait, l'utopie, cette radicalité, elle crée aussi elle galvanise. Parce que là, c'est un projet de société à monter. Et ça, tu as envie de le défendre. Alors que des indicateurs sur la réduction du taux de pollution, tu t'en fiches totalement. C'est moins 15%. C'est rien, quoi. Donc, il y a cette radicalité. Et cette radicalité, elle permet, oui, une troisième chose, c'est qu'elle permet d'innover. Elle permet de décadrer. C'est-à-dire que quand tu dis on va faire moins 15% de CO2, ben, en fait, tu fais comme d'habitude. Tu grattes à droite, à gauche, mais tu ne changes pas tes habitudes. Tu embêtes tout le monde en faisant ça, parce que tout le monde est obligé d'aller chercher un peu d'économie par-ci, un peu d'économie par-là, et tu remets, voilà, tu chamboules le confort de tout le monde, donc tu as embêté tout le monde. Par contre, tu n'as absolument pas changé ton business model, tu n'as pas innové, tu n'as pas apporté des solutions totalement dingues qui vont révolutionner le marché et donc t'amener des perspectives et de la prospérité. Alors que si tu dis zéro pollution, ah bah alors là... Effectivement, les gars, a priori, c'est irréalisable. Et en fait, ça restera irréalisable tant que tu resteras avec le même mode de pensée. Pour tenter cette histoire d'abolition de la pollution, tu es obligé de sortir totalement du cadre. Et ça, il y a plein d'entrepreneurs, voilà, qui ont réussi à faire ça, qui ont innové radicalement parce qu'ils se sont donné des objectifs radicaux. Donc en fait, l'utopie, c'est ça, c'est d'avoir la radicalité. Et le deuxième, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que tout est permis. En fait, personne ne l'a jamais fait avant toi. Et c'est aussi pour ça que je voulais passer du développement durable à l'utopie. C'est que le développement durable, c'est beaucoup d'indicateurs, de process, de procédures, de normes. Et comme s'il y aurait il y avait des bonnes recettes et des gens exemplaires. C'est fou, en fait. Ça dépend de ta culture, ça dépend de ton milieu, de ton secteur, des gens avec lesquels tu travailles. Et en fait, tout est recevable. N'importe quelle porte d'entrée est la bonne. L'important, c'est d'avoir cet objectif radical dans le radar. Et là, mais tout est permis, d'abord parce que personne ne l'a jamais fait avant toi. Donc, il n'y a pas de recette, puisque c'est à toi de la créer. Et il y a cette idée d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on avance. Oui, les premiers panneaux solaires, ils sont pas parfaits, mais c'est logique, c'est le début. Et en fait, on accepte ça. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas l'imperfection, ce que t'apporte ce pragmatisme de dire bah non, ce ne sera pas parfait dès le début. Si tu ne t'autorises pas à être imparfait, si tu ne t'autorises pas à échouer dans cette utopie, ponctuellement en tout cas, bah tu t'autorises pas l'audace en fait. Tu t'autorises pas à tenter les choses parce que forcément, il n'y a pas de recette quoi. C'est pas du jour au lendemain, on va se réveiller et ça y est, on a tous la solution. Non, on expérimente. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dans l'utopie, c'est aussi ce côté, retrouver ce côté bricolé, expérimenté. Faire, t'en as parlé tout à l'heure. Donc, dans l'utopie, il y a une des valeurs clés, c'est l'idée de faire, d'être dans l'action. C'est-à-dire, on y va, on expérimente des choses en parallèle de ce qu'on fait d'habitude. Il ne s'agit pas de couper la branche sur laquelle on est assis. On expérimente des trucs totalement fous, mais on le fait. Et en faisant un, on reprend confiance en nous, parce qu'on se rend compte qu'avec un certain nombre de personnes autour de soi, on commence à y pouvoir ouvrir des nouvelles portes. Donc, tu reprends confiance et puis deux, tu apprends. Et donc, tu es en train de constituer petit à petit ce qui va devenir quelque chose qui va être gérable, qui va être viable, quoi. Et l'idée, c'est aussi pour ça que je suis allée vers l'utopie, c'est donner des occasions de faire plutôt que de donner des leçons. Donc, le côté, on se, entre guillemets, on se tripote sur les valeurs, c'est quoi mes valeurs et c'est quoi ma charte RSE, machin, fini, quoi. On arrête de passer des heures sur ce genre de truc. Est-ce que c'est le mot machin, le mot truc? Alors tu retrouves toujours les mêmes mots partout. Voilà, donc c'est responsable, exemplaire, inclusif, enfin bon, bref. Hein. On s'en fiche en fait. Parce que les mots, ça accuse. Les valeurs, ça accuse les autres. Donc effectivement, quand tu dis je suis une entreprise responsable, les autres en face, ils se disent mais attends, eux, ils reçoivent je ne suis pas responsable, moi. Et qui tu es pour venir me donner des leçons? Donc en fait, on se met dans des positions extrêmement culpabilisantes pour les autres qui deviennent des ennemis. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de... Alors que quand tu es dans l'action, l'action rassure, alors que les valeurs accusent. Donc moi, j'essaie toujours de gommer tous les mots, ce que j'appelle les gros mots, voilà, qui sont des mots qui accusent et qui nous mettent pas dans le faire. Donc ça c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'utopie. Donc l'imperfection, l'action. Et le troisième, c'est le piratage. Donc c'est l'idée effectivement de... On te demande un rapport de développement durable, bah, tu pirates. C'est-à-dire tu poses des questions. Pourquoi? À quoi ça sert? Parce que si c'est pour épuiser tout le monde pour avoir un joli rapport de développement durable, bah, bravo quoi. T'as passé des heures et t'as mis toutes tes équipes sur le sujet. Et voilà à quoi voilà ce que c'est que le développement durable dans la boîte. Avoir fait un rapport de développement durable qui a embêté tout le monde et qui a épuisé les énergies. Donc l'idée, c'est non, on est sur un projet, on essaie de trouver quelque chose, et le reste, ben, parce que le piratage, en fait, au départ, c'est moi ce qui m'a intéressé, c'est que ça vient des hackers, donc les premiers pirates informatiques, face au système de Apple et tout ça, qui sont très fermés, ils disent, quelque chose que tu ne peux pas ouvrir ne t'appartient pas. Et ça, c'est un des éléments clés de l'utopie, en tout cas des leviers de changement, c'est que le développement durable et tout ça, ce sont des boîtes qu'on n'ouvre pas. Or, il faut se réapproprier les choses. On a besoin d'être impliqué. Et quand on applique des normes ISO 26000, quand on applique des procédures, ben on se désimplique, en fait. On est consommateur, on n'est pas acteur. Or, un des leviers principaux de changement, c'est d'être acteur, d'être impliqué. Parce qu'en fait, c'est ton degré d'implication qui va faire que tu vas modifier ton comportement quoi qu'il arrive. C'est ce qui crée ta force de conviction, en fait. Si tu n'as fait que consommer on va dire un processus norme ISO 26000, bah, au premier problème, tu vas dire, de toute façon, le développement durable, c'est que des trucs nuls. Enfin, voilà. ça marche pas. Alors que si tu te creusais la tête pour savoir comment dans ton entreprise tu peux faire rentrer des choses, comment tu peux changer ta façon de d'aborder ton marché pour contribuer positivement au monde, là tu deviens acteur. Et en fait, on a besoin de gens qui sont acteurs d'un nouveau scénario. C'est ça qui crée l'implication et donc la modification de comportement durable.
Oui, mais tu dis quand même contribuer positivement au monde, ça veut dire que même si on n'affiche pas ses valeurs, une utopie pourrait être une utopie néfaste pour les autres, puisque c'est des gens qui inventent, ils ont un objectif, ils sont radicaux,
Alors,
pragmatiques, donc il n'y a pas de notion de moralité dans
si,
l'utopie.
en fait, si, évidemment, évidemment qu'il y en a une, évidemment, en fait, moi, mes utopies, elles sont forcément en faveur du monde. Quand on me dit, mais tout le monde n'a pas la même éthique, etc., etc., oui, en fait, il y en a une qui est la base, qui est, que j'avais trouvée justement pour l'utopie, pour mon premier bouquin, l'utopie mode d'emploi. En fait, il y a une loi universelle qu'on appelle la règle d'or, qui a traversé toutes les époques, toutes les religions, toutes les cultures. Et en fait, elle est simple, c'est ne pas nuire aux autres. C'est ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Et en fait, moi, je suis repartie de cette règle d'or, qui est l'idée qu'on ne nuit pas aux autres et comment est-ce qu'on fait pour que nos modes de vie ne nuisent à personne. Et c'est vrai que, bon, je ne le dis pas, mais une utopie pour moi est forcément positive. On n'en fait pas plus que ça en termes de valeur. Pour moi, c'est tellement évident. Enfin, c'est une humanité, quoi. C'est le vivre ensemble, c'est faire société, c'est ne pas nuire aux autres. Ça me paraît super évident. Voilà. Une fois qu'on est là-dessus, on n'a pas besoin d'en faire des caisses. En fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est les beaux discours sur les intentions et sur les valeurs. D'abord, plus tu fais de discours et plus tu risques de t'en prendre plein la figure. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment de placer le curseur sur les actions. C'est-à-dire que les bonnes intentions, on s'en fiche. Enfin, vraiment, quoi. À un moment donné, je me dis, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont une bien meilleure moralité que moi, et tant mieux. Et ce qui est important, c'est tes actions, tes décisions, c'est quoi les conséquences? Il n'y a que ça. Le reste, on s'en fiche, en fait. Parce que c'est facile, et d'ailleurs, c'est bien ce qui est compliqué, c'est que même dans des grosses boîtes, et on a tous ce problème-là, hein, il y a des gens très, très bien, avec de très, très bonnes intentions. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que c'est quoi les conséquences de tes actes et de tes décisions, en fait. Et c'est là où j'essaye de faire la différence entre les deux. Et d'ailleurs, comme par hasard, on est toujours en train d'aller chercher les gens sur leurs intentions. Parce que nous, on a forcément des bonnes intentions. On a tous forcément des bonnes intentions. Et des gens qui peuvent avoir des bonnes actions, par exemple, je me souviens au début, ceux qui mangeaient bio, on disait, ouais, bah, c'est un peu égoïste, hein, c'est pour leur bien-être. Et alors? Et alors? On s'en fiche. Enfin, voilà. Si moi, ça me fait du bien et si ça fait du bien à l'humanité, ben. Faut pas opposer non plus l'égoïsme et l'altruisme. À un moment donné, ce qui est important, qu'est-ce que ça fait, quoi? Parce qu'effectivement, on pourrait dire que Hitler avait une utopie, sauf que bah, les conséquences de son utopie, elles sont pas terribles. Donc ouais, à un moment donné, il faut juste. Parce que les intentions, elles sont toujours critiquables. Elles sont toujours, oui, mais ils font ça pour leur image. Oui, et après tout. Enfin, voilà, ce qui est
Ce qui
important,
compte,
c'est.
c'est de voir ce que ça provoque en fait, quelles sont
Ouais,
les conséquences, c'est ça?
exactement. Et en essayant d'être honnête aussi. C'est-à-dire, je vais aborder une chose qui n'est pas facile. C'est que moi, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai arrêté l'accompagnement d'entreprise à un moment donné, parce que je me suis dit, tu agis contre ton camp. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est que je pouvais travailler pour des entreprises qui avaient de très bonnes intentions. On pouvait faire des choses très bien. Si on regarde un petit périmètre, c'est-à-dire que voilà, on faisait des gammes vertes, on avait des projets d'éco-gestes, de développement durable dans l'entreprise. Donc on créait du bien-être voilà, des salariés. On avait une gamme verte, donc très bien. Sauf que si cette entreprise-là, si c'est pas elle qui est en train de révolutionner le marché, qui est en train de créer un autre monde, si son monde à elle, il est quand même encore dans la destruction du vivant, Ce que moi je faisais avec ma petite gamme verte et avec mes projets de RSE, etc., c'est contribuer à retenir cette entreprise. C'est-à-dire qu'elle avait encore les moyens de recruter parce qu'elle a une bonne image. Les consommateurs l'achètent encore parce que bah, elle fait une petite gamme verte. Et puis, donc, ces entreprises, elles ont encore les moyens de communiquer, elles ont encore les moyens de faire pression sur les réglementations. Et donc, elles retardent les autres qui sont, elles, en train d'essayer, en train de s'épuiser à changer le monde et à apporter des vraies solutions radicalement différentes. Et là, ce truc-là, j'essaie de ne pas le moraliser parce que je me dis, chacun a son endroit. Mais en tout cas, moi, mon endroit, je me suis dit, ce jour-là, je me suis dit, arrête ça. Tu es en train de travailler contre ton camp. Alors que concrètement, à un petit niveau, oui, on faisait des choses bien et ces gens-là font des choses bien. Sauf que sur le fond, et ça, c'est technique, c'est pour ça que j'essaie toujours d'enlever la morale dans l'histoire, c'est technique, cette entreprise vit sur la destruction du vivant et sur l'exploitation d'êtres humains à l'autre bout du monde, en tout cas sur une grosse partie de son business. C'est-à-dire que si elle ne fait pas ça, elle n'est pas rentable. Et donc, elle a intérêt à ce que ce modèle continue à tourner, tout en ayant un petit peu de verre par-ci par-là parce qu'elle en a besoin pour son image et son risque de réputation. Mais au final, quand on regarde et quand on est honnête, on se dit, mais en fait, techniquement, elle n'a pas intérêt à ce que le monde bouge, elle n'a pas intérêt à ce que les autres entreprises innovantes, radicales, puissent imposer un autre regard sur leur marché.
Oui, elles sont pas assez radicales pour toi, et d'autres pourraient se dire, d'autres qui font ce métier, se dire, on va là où on peut faire justement le nudge, changer peu à peu les choses de l'intérieur. Voilà, à ce moment-là, c'était pas assez radical pour toi, cette approche.
Alors, ce n'est pas tant une question de radicalité qu'une question d'effet. C'est-à-dire que, il y a un moment donné où moi je me suis rendu compte qu'il y a compétition entre deux mondes. C'est très clair, on n'aime pas entendre ça et on me dit oui, mais Sandrine, il n'y a pas les gentils et les méchants. Non, c'est vrai, il n'y a pas les gentils et les méchants. Par contre, il y a des systèmes qui sont mortifères et des systèmes qui sont contributifs. Et à un moment donné, encore une fois, il y a des réglementations, il y a du lobbying, et en fait, les règles du jeu sont faussées. Et aujourd'hui, elles sont faussées en faveur de ceux qui détruisent le vivant. Si aujourd'hui, tu fais. Quand je prends par exemple l'alimentation bio, c'est super simple. L'alimentation bio, aujourd'hui, on dit que le bio est cher, c'est faux. Le reste est subventionné. Elle est plus chère, donc on va dire qu'elle n'est pas rentable. Mais en fait, elle n'est pas rentable. Parce que le modèle subventionne ce qui est mortifère. C'est-à-dire que les subventions européennes à l'agriculture, elles sont données à l'hectare. Donc, les grandes exploitations, donc pas le bio. Elles sont données sur des investissements financiers, donc le matériel, donc pas l'humain, donc pas le bio, plutôt les grands industriels. Donc, en fait, déjà, elles n'ont pas les subventions. Deuxièmement, l'agriculture industrielle ne paye pas le traitement de dépollution des eaux, du sol. Comment on appelle ça, avec nos impôts, nous payons la consommation d'eau, nous payons la dépollution de l'eau qui est en fait voilà, provoquée par l'agriculture industrielle, entre autres. Eux ne la payent pas. Le bio, eux, quelque part,
Il ne provoque pas ça.
ils ne le provoquent pas. Donc en fait, il y a tous les coûts cachés qui ne sont pas. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent pas rentables parce que le système est sur. Donc tant que nous continuerons à acheter le système industriel ou tant que certains d'entre nous contribueront à ce que ces entreprises-là ou ces grands groupes-là aient encore une image acceptable pour tout le monde, eh bien les autres, ils sont en train de s'épuiser en face, en fait. C'est-à-dire que souvent, on voit le côté radical, mais oui, mais c'est pas très bienveillant vis-à-vis du modèle actuel. Mais les autres, ils sont en train de s'épuiser en face, en fait. Ils sont juste en train de mourir. On est combien, moi je dis souvent ça, on est combien à vivre du nouveau monde? On n'est pas nombreux, hein. Et le truc, c'est pas parce que nos histoires ne sont pas rentables, c'est parce que le modèle n'est pas fait pour nous. Parce que les investissements vont toujours à l'ancien modèle, parce que les consommateurs ne migrent pas suffisamment rapidement, parce qu'on met toujours notre argent dans des banques qui financent les énergies fossiles et tout un tas de choses, et l'évasion fiscale. Etc. etc. Donc en fait, à un moment donné, il faut être lucide. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui vraiment est mortifère. Et la grosse difficulté, encore une fois, c'est qu'il y a des gens très très bien dans ce monde-là. Mais je
Bah
crois
oui.
qu'à un moment donné, on ne peut plus. Bah oui, c'est ça qui n'est pas facile. Mais à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, se dise à quoi je contribue. Et nous, on a décidé ça un jour. Ça a été douloureux, hein, parce que moi, j'avais pas beaucoup de travail. Mais à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Là, tu peux pas, c'est pas aligné du tout, là, ton histoire. Et pendant très longtemps, on se dit. Alors après, il y a des choses qui peuvent. Moi, changer de système de l'intérieur, comme je te l'ai dit, j'y crois pas. Je crois que le système est plus fort que toi et qu'il t'épuise. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Hulot. Le système est plus fort que lui. Et à un moment donné, bah, il s'épuise. Voilà. Parce que c'est pas possible. Et puis parce que tu es dans un milieu. En fait, c'est comme un être vivant. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu es en décalage avec ton système, le système dans lequel tu es, de par tes valeurs, de par ce que tu veux créer dans ce monde. Et donc, soit le système finit par changer. Pour que tu restes dans ce système, c'est comme les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que soit tu vas être éjecté par le système, soit tu contamines trop autour de toi et c'est plus possible, quoi. Donc, en fait, on t'éjecte du système ou toi, tu finis par t'épuiser. Mais ça ne peut pas durer très longtemps.
Ça veut dire qu'il faut aller vers quoi? Il faut que je t'avoue quelque chose. Hier, tu as publié un article qui s'appelle. Donc, ça a été publié sur Reporter. On peut renverser le capitalisme sans modèle pour la suite. Alors, ça m'a un peu glacé le sang, mais j'aime bien lire des choses qui me glacent le sang. Parce que je me suis tout de suite dit que d'expérience, j'interviens dans les entreprises et notamment en intelligence collective avec des grands groupes. Et un jour, chez un client, j'ai fait une expérience parce que justement, j'étais un peu radicale. Je voulais aller loin. Et donc, j'ai donné un but à un groupe sans donner vraiment de cadre ou de ligne directrice, en gros de règles du jeu. J'ai juste donné le but. Et ça a été un échec. Et j'ai eu la chance d'être dans une entreprise que je dirais agile. Et j'ai pu débriefer, notamment avec le PDG et quelques personnes du groupe. Et je me suis rendu compte que dans le groupe, eh ben, c'était pas forcément ceux qui avaient les réponses, ceux qui avaient vu des choses, compris des choses, qui ont pris la direction, qui ont exprimé leurs opinions ou donné des idées. Et c'est plus ceux qui avaient eh bien cette facilité à y aller, une espèce de peut-être spontanéité ou et on est arrivé un peu nulle part, il faut bien le dire. Donc j'ai cette croyance qu'il est bon d'avoir un cadre, d'être libre dans un cadre créatif, mais dans un cadre, toujours ce fameux cadre. Et donc je me demande si on venait à changer de système, tu crois qu'on peut vraiment y aller sans se préparer?
Mais en fait, le monde a toujours changé comme ça. Moi, c'est pour ça que dans Les Suspendus, j'ai voulu étudier, j'ai eu cette urgence-là de me dire comment le monde a changé. Parce qu'évidemment que ça fait peur. Évidemment que ça fait peur de dire, ah, mais on n'a pas. Mais ça ne se passe jamais comme ça. On dit, le mur de Berlin. Tu prends le mur de Berlin, tu prends n'importe quoi. Les gars, c'était pas, on a un plan d'action, on a une feuille de route, on a les généraux et on sait ce qu'on va mettre derrière. Mais pas du tout. Mais pas
Oui,
du
mais
tout. En
regarde
fait.
la Révolution française. Derrière, il y a eu autant de violence
Alors moi, je ne
qu'avant.
parle pas de révolution. Moi, je ne parle pas de révolution, je m'en fiche. Enfin, je ne sais pas quel est le système, je veux dire, le mur
D'accord.
de Berlin. Après, moi, ce qui m'intéressait dans l'article dont tu parles, c'est que, et ça, c'est toujours la même chose, c'est que c'est de la diversion, c'est-à-dire de dire, vous n'avez pas le système derrière, alors surtout ne remettez pas en cause l'actuel. En gros, c'est ça l'idée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire le truc, l'essentiel, parce qu'il faut toujours revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de ta vie et c'est quoi l'essentiel de ce que tu... de cette chance qu'on a d'être en vie. Parce que ça, moi, j'y pense tous les jours. Et en fait, l'essentiel, ce n'est pas l'incertitude du comment on va faire après. L'essentiel, c'est la certitude de l'intolérable de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est juste intolérable. Que notre mode de vie tue des gens, qui crée des migrations partout, enfin, je veux dire, avec les réchauffements climatiques, ça va être terrible. Ça, c'est intolérable. Et le monde qu'il y a à créer, il est extrêmement joyeux. Et quand tu rentres là-dedans, moi je peux t'assurer que mes copines qui sont plutôt plus jeunes que moi, qui sont zéro déchet, mais elles ont une créativité et une joie de vivre, mais absolument géniale. Ça nous rassure de penser que cet autre monde, c'est forcément l'austérité, c'est forcément compliqué. Oui, au départ, c'est compliqué, parce qu'effectivement, tu ouvres la boîte, ce que je disais tout à l'heure, tu pirates ton mode de vie. t'arrêtes d'être en pilotage automatique, qu'on t'a toujours, t'as fait telle école, alors tu vas faire tel type de boulot, t'es dans une société occidentale, donc tu dois vivre comme si, etc., etc. Là, non, tu réouvres les choses, tu te dis, bah, de quoi j'ai besoin déjà? Tu vois, moi, c'est ce que j'ai dit à ma fille quand elle voulait faire les soldes l'année dernière. On en a parlé ensemble et je lui ai dit, bah, déjà, on va se poser la question de quoi tu as besoin plutôt que d'aller faire les magasins comme ça. Tu vois, c'est des choses. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que ça vient comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on est tous des apprentis dans cette histoire. Moi, il y a des choses que je fais très facilement aujourd'hui que je faisais pas facilement avant. Mais dès que tu mets le pied dans la porte, le pied dans la porte, ouais, que tu rentres dans ce mode de vie, il est juste génial, quoi. Et il y a plein de choses qui existent. Ce qu'il faut surtout, c'est se mettre en lien avec des gens qui sont déjà un peu là-dedans et qui, du coup, voilà, on se donne des tuyaux. Nous, on a créé une utilothèque ici, c'est-à-dire on a mis en commun, on a fait une espèce de bibliothèque et nos outils, nos appareils raclette, nos tentes, nos tondeuses, voilà, tout, quoi, en fait. Et c'est l'occasion de prendre un apéro pour savoir le prochain équipement qu'on va financer ensemble. Et en fait, c'est plutôt un monde assez joyeux, vraiment. Et surtout, c'est un monde qui nous permet de nous affranchir et de redevenir des citoyens autonomes, beaucoup plus que ce qu'on était. Et c'est là où moi, je trouve que c'est quand même un monde assez fabuleux. Moi, je ne crois pas qu'on soit sur Terre pour être des consommateurs. Voilà, quoi. Et passer d'un désir à un autre, qui sont des faux désirs qu'on nous a fabriqués par le marketing et par la pub. En fait, en nous faisant croire qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Les possibilités ne sont pas simples, mais il y en a d'autres. Et ça va tellement vite. Le covoiturage, il y a 5 ans, mais ça faisait doucement rigoler, quoi.
Moi,
Aujourd'hui,
ça fait 10 ans que je fais du covoiturage et c'est vrai que j'ai vu l'évolution. C'est
c'est dingue.
impressionnant,
Mais oui,
impressionnant.
c'est impressionnant. Et même moi, tu vois, ce que je raconte aujourd'hui. Ça fait des années que je dis ah, cocotte minute sociale et gilets jaunes, personne ne les a vus arriver. Et on ne sait jamais d'où ça vient et on ne sait jamais comment ça va se passer. Et tu vois, là j'étais avec, j'ai fait une conférence, il y avait beaucoup de gens de grands groupes. Je savais que ce que je disais n'était pas facile à entendre et je m'en excuse à chaque fois en disant voilà, je sais que c'est compliqué à entendre. Mais j'ai eu des super retours et notamment sur cette histoire de radicalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais il faut être prêt, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on n'a pas des pistes de solutions, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de mode de vie, on va pas changer du jour au lendemain tout. Mais on peut commencer chacun avec un petit truc. Et c'est là où tu commences à prendre confiance et où tu as envie d'aller plus loin. Et ces gens-là, je pense qu'il y a un moment donné où ils sont prêts, enfin, de plus en plus de gens sont prêts. Et moi, je vois la bascule là depuis quelques mois, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'avant, mon discours pouvait être culpabilisant et déclencher beaucoup d'agressivité. Et là, aujourd'hui, il y a une vraie écoute et un échange parce qu'on passe tous, moi aussi, je suis passée par des moments de refus, par des questionnements, par des prises de risques. Pour tout le monde, c'est la même chose. Pour tout le monde, c'est la même chose. Et c'est pour ça que les gens qui ont fait un bout de chemin, c'est important aussi de témoigner et justement avec bienveillance aussi pour dire, voilà, c'est pas facile, mais c'est tellement libérateur, quoi. Et puis, moi, je me dis toujours aussi qu'il y a la génération derrière là, qui arrive. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais on a des étudiants qui font la grève partout, dans plein de pays du monde. Et moi, ça me met en joie parce que j'ai tellement attendu en écrivant Les Suspendus. Moi, je rêvais que de ça, que les gens se tiennent debout et réaffirment c'est quoi la vie et c'est quoi les valeurs de l'humanité, c'est la solidarité entre générations, c'est tout ça, quoi. Et donc ça m'a mis en joie de voir faire ça et en même temps, mais ça me tord le cœur, quoi. Je me dis, ils sont obligés de se mettre en grève de l'école parce que nous n'avons rien fait. Et moi, je trouve ça, mais terrible, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est ainsi qu'on va avancer. Et ces gens et ces jeunes nous honorent, quoi. Et à chaque fois, je me dis, voilà, c'est pas toujours facile, mais nos enfants, ils nous regardent faire. Et peut-être que notre génération ne va pas réussir à faire la bascule, mais en même temps, on a des enfants qui regardent, voilà, ce qu'on tente de faire, ce qu'on expérimente avec nos faiblesses, avec nos vulnérabilités, et aussi parfois avec des petites victoires. Et eux, ils sont en train d'apprendre. Et eux, ils vont, voilà, ils vont avancer. Et c'est plutôt bien, quoi.
Donc tu es optimiste.
Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas d'optimisme ou de pessimisme. Je sais simplement que de ce côté-là de l'histoire, je rencontre toujours des gens assez fabuleux, que moi j'apprends beaucoup sur moi, que j'ai la conviction de contribuer à un monde meilleur et c'est la seule chose que je veux faire. Et puis à chaque fois qu'on me dit ouais mais tu vois, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va renverser la bascule, je me dis mais après tout peu importe, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie quoi? Est-ce que tu veux avoir passé ta vie dans le déni, dans la résignation, avoir contribué à du pire? Ou est-ce que tu veux, au contraire, avoir passé ta vie à contribuer au meilleur et à t'éclater? Parce qu'encore une fois, c'est assez jouissif, en fait, cette histoire.
C'est marrant parce que c'est là que je suis, parce que moi je fréquente des milieux très différents, je peux voir aussi toute une partie de la population, alors pas que française, hein, mais qui n'hésite pas à prendre l'avion à tire-larigot, qui n'hésite pas à utiliser les autres, quoi, je veux dire, et même chez les jeunes, hein, j'en vois beaucoup, hein, ils sont assez aliénés parfois par les écrans, par une forme de superficialité, et il y a ce qu'on appelle en anglais le willful blindness, dont la cécité, je sais pas comment. Et en fait, on ne voit pas ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que quand même, on arrive à un point de bascule terrible au niveau de ce qu'on fait subir à notre environnement et à nous-mêmes d'ailleurs, et je veux dire que ce soit social ou environnemental, hein. Et donc parfois j'ai pas forcément un grand optimisme, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi j'ai envie d'y aller à fond, quoi.
En fait,
C'est-à-dire
l'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie et c'est la détermination. Et c'est là où c'est vraiment un état d'esprit. Alors moi, je dis d'utopiste, mais aussi désobéissant. Tu vois, les résistants pendant la guerre, comment tu voulais qu'ils soient optimistes, quoi? ils étaient que 2 à 3%, donc il y avait tous les autres qui étaient de l'autre côté. Donc en fait, c'est vraiment l'idée, c'est surtout pas regarder la majorité. Et d'ailleurs, le monde change avec des minorités. C'est très compliqué à accepter cette histoire, mais c'est toujours ainsi. Et donc du coup, l'idée c'est ça, c'est de se dire, de rester, moi je dis toujours restons concentrés. Même quand je vois des trucs qui me dépriment, je me dis attention Sandrine, reste concentrée sur ce que tu veux faire. Parce que évidemment, enfin, je veux dire, les nouvelles, elles sont pas terribles. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont pas terribles, il y en a aussi beaucoup qui sont très bonnes. Mais surtout, dans cette histoire, il y a l'inattendu. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on n'anticipe pas, qu'on n'a jamais anticipé et qu'on n'anticipera jamais, et qui peuvent changer totalement les choses. Il peut y avoir, je sais pas moi, des hackers qui font sauter le système bancaire, il peut y avoir, je sais pas moi, une épidémie terrible qui fait qu'on ferme tous nos frontières, et du coup on est obligé de revenir à l'autonomie, on est obligé de... Il n'y a plus de voyage en avion, il n'y a plus l'agriculture, il faut qu'elle redevienne locale, etc., etc. Et là, eh bien, un mal pour un bien, ça peut changer beaucoup de choses.
Oui,
Donc,
c'est vrai. Ouais.
tout peut s'arrêter en fait.
Ça me rappelle un épisode. Je travaillais à New York et ça devait être en 2003 ou 2000, ouais, 2004 peut-être. Et il y a eu une grande panne d'électricité sur tout New York. Il fallait voir, je veux dire, plus rien ne fonctionnait. Tu peux plus utiliser les ordinateurs, tu as des embouteillages monstres. C'était impressionnant et ça crée des nouvelles dynamiques entre les gens. C'est
C'est
comme on le
ça.
voit avec les grèves, les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il peut. Mais il peut se passer de l'inattendu et dans des choses terribles comme dans des choses qui
Exactement.
peuvent nous. Mais j'ai l'impression que même dans les épreuves les plus terribles, c'est là qu'on déploie nos plus belles facettes.
C'est ça. En fait, tu vois, le sous-titre des suspendus, c'est du tragique peut naître le sublime. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les périodes tragiques, ça amène certains d'entre nous à se mettre debout, et en fait, à se réveiller et à se révéler. Et en fait, c'est là où tu as des gens qui avaient cette part d'utopie endormie. Et moi, probablement, d'ailleurs, que je serais restée dans mon petit boulot de pub si j'avais pas vécu cette époque-là, hein. Mais il y a un moment donné, il y a des événements qui tout d'un coup te font sortir qui tu es vraiment et comment tu veux vivre ta vie de la façon dont avec le sens que tu veux lui donner, quoi. Et c'est vrai que le confort est piégeant. Il est très piégeant, le confort. Et c'est là où tu as besoin d'avoir un peu de choses fortes qui font que ça te transcende, en fait.
Dans la dernière série de podcasts que je faisais sur le savoir-être au travail, j'avais un petit questionnaire à la fin qui était commun à toutes les interviews et j'avais envie de garder. J'aime bien en fait voir les différentes réponses à la même question faites par différents intervenants, bien que je ne sois pas complètement sûre des questions que j'ai envie de poser. Donc ce questionnaire évoluera peut-être avec le temps. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, même si on a parlé d'action et ça, moi j'avais envie... Tu vois, il y a tous ces sujets. On a abordé plein de sujets, l'écologie, il peut y avoir l'éducation. En fait, il y a plein de sujets qui font société.
Ouais.
J'entends des opinions, ça peut être à la radio, à la télé, je sais pas, dans les journaux, et je me dis ah oui, ça, ah oui, ah ça, non. Mais j'arrive pas à avoir une vision globale de mes opinions, on va dire, sur la société. Et donc, je suis plus en réaction, je trouve, à des opinions que à vraiment me constituer. Cette vision. Et donc, de là, j'avais envie de me dire, bon, je vais essayer de construire une utopie, non pas qui serait une utopie qu'on va appliquer au monde demain, mais juste pour moi, créer cette carte de société et pouvoir poser des questions. Je me pose plein de questions, notamment sur les frontières, sur la culture, voilà, comment on vit ensemble sur cette terre. Et donc... Pour arriver à me créer un modèle, en fait, je me demandais si tu pouvais, toi aussi, m'aider. Est-ce que, pour créer mon utopie, il y a des questions, ou une question, on va en prendre qu'une, hein, sinon on ne finira jamais ce podcast, on va prendre une question qu'il faudrait absolument que je me pose.
Moi, j'en ai une que je me pose, et qui est toute simple, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon vivant ? De mon vivant à la fois dans le sens de ma parenthèse, c'est-à-dire de mon passage sur cette terre, et de mon vivant, c'est-à-dire de l'être vivant que je suis, de ma singularité à moi. Qu'est-ce que je veux faire de qui je suis, quoi.
Et alors j'avais une autre question, c'est est-ce que tu vois quelqu'un que je devrais rencontrer pour l'interroger, pour avoir une vision plus claire, pour réussir à construire mon utopie.
En fait, moi, je crois que la personne qu'il faut rencontrer, c'est soi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est-à-dire, mais pas soi, retourner vers soi, en fait. C'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui te rend absente, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a fait de nos vies, essayer de se mettre en suspens et de se dire voilà, c'est quoi qui est important pour moi en fait, et de laisser émerger ce qui va se passer. Parce qu'en fait, la réponse, tu l'as en toi. Elle est très personnelle, une utopie, c'est super personnel. Il ne faut surtout pas que ce soit en fonction des normes sociales, en fonction de... Parce que c'est quelque chose voilà, qui est une puissance d'être en fait, qui est quelque chose qui va te porter. Bon, moi, je pense que la réponse, elle est en soi. Et pour ne pas faire que cette réponse-là,
je pense que surtout, ça fait 10 ans que je fais des interviews sur le bonheur et le savoir-être et où j'ai passé beaucoup de temps à justement comprendre comment je fonctionnais et ce que je voulais. Et je pense que c'est... peu de gens dans leur vie ont la chance d'avoir autant de temps pour faire ces choses-là. Donc, c'était vraiment...
Alors, moi, le truc, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire-là. Moi, je crois, c'est pour ça que je parle d'accomplissement personnel, pas de développement personnel. Je pense que l'idée, c'est de s'oublier un peu pour se trouver, pour se re-rencontrer. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on travaille beaucoup sur soi, on fait tout un tas de stages, tous les uns les autres, et il y a un moment donné, en fait, où on est dans une espèce de fuite en avant de développement personnel. Et moi, je crois qu'au contraire, il faut être le plus soi possible. Et, et non pas changer... Mais s'approcher de qui on est au fond. Et ça, j'y crois vraiment, cette histoire-là. Et il y a un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidé, enfin, sa pensée m'a beaucoup aidé là-dessus. Il dit vraiment ça, qu'en fait, il y a notre singularité profonde et après, il y a notre identité. Et notre identité, elle est construite de tout un tas de choses. Et on se raccroche à ça. Et c'est notre espèce de cohérence et c'est notre espèce de persévérance. Mais à un moment donné, en fait, il faut lâcher ça, qui est extrêmement en rapport avec le besoin de reconnaissance et notre image, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus instinctif. Et moi, je crois qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'ai dit, un peu se fiche la paix et s'oublier un peu pour se re-rencontrer. Et moi, par exemple, j'y arrive dans des... Quand je voyage en itinérant, ou je ne sais pas où je vais dormir le soir, dans des contrées qui ne sont pas du tout dans ma culture, Et je me souviens, une fois, j'avais dit à ma fille, c'est bizarre, je me sens chez moi ailleurs. Et après, j'ai compris que c'était cette histoire-là. C'est qu'en fait, ailleurs, je ne suis pas dans mes réflexes habituels, je ne suis pas dans ce que je pense, enfin voilà, avec mon identité, avec mes habitudes. Et du coup, je suis qui je suis au fond. Et c'est quelqu'un d'assez différent finalement. Donc en fait, c'est cette histoire-là. Et après, si vraiment tu veux trouver des gens, je pense qu'il faut pareil, aller à l'instinct, c'est-à-dire c'est toi qui vas sentir les gens qui peuvent t'aider parce qu'ils t'inspirent de par leur chemin ou parce qu'ils te dérangent. Et moi, je me suis rendu compte que les gens qui sont dérangeants nous renseignent en fait. Ils nous renseignent sur des choses qui sont importantes pour nous et qu'on n'a pas trop envie d'affronter encore. Donc, je dirais que c'est ces gens-là qu'il faut
Ok.
aller voir.
Et pour finir, je me disais, voilà, tout d'un coup, le monde entier s'arrête, tout le monde t'écoute et on te donne carte blanche, tu nous donnes une consigne, une chose à faire pour créer ce monde, qui est dans ta propre utopie, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu nous donnes comme consigne? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire évoluer le monde?
Je sais pas. Je sais pas parce que c'est. Je crois que c'est de s'arrêter en fait. Tu vois, c'était en 2001, moi, que j'ai eu mon choc. Et je sortais dans la rue et je comprenais pas que les gens continuaient à vivre en fait. Et je crois beaucoup à l'histoire de décadrer, de s'arrêter. Parce que quand on décadre, on se rend compte en fait, dès qu'on prend du recul, c'est la même chose avec l'histoire, tu vois. Quand c'est avec le recul de l'histoire qu'on se rend compte voilà, de ce que les gens, de ce qui a été fait de bien. Dans l'époque, on est incapable de le voir. Mais c'est la même chose dans nos vies, en fait. Tant qu'on est dans le je remplis ma vie, je fais des choses et je ne me passe pas trop de questions, en fait. Tant qu'il n'y a pas assez de vide, bah, du coup, on arrive. L'essentiel n'émerge pas. Et moi, je crois que si on se branchait tous à l'essentiel, ce serait très, très simple. Donc je crois qu'il faudrait s'arrêter, il faudrait qu'on s'arrête tous un grand moment et qu'on, je sais pas moi, qu'on change, qu'on échange nos maisons, nos vies avec d'autres gens parce que je crois profondément qu'on a la solution est en nous et que l'humanité sait déjà ce qu'il faut faire. Voilà.
Ok, super. Si les gens qui nous écoutent veulent te voir ce que tu fais, te contacter, c'est quoi le moyen le plus facile?
Le moyen le plus facile, bon, je suis un peu partout, on va dire. J'ai un site internet qui s'appelle Alternité. Et puis, mes livres, ils sont. Donc, c'est L'Utopie Mode d'Emploi, elle est suspendue. Et ils sont sur lamersalée.com. Et là, c'est pareil, on peut me contacter par ce site-là aussi.
Je mettrai tout dans les notes de l'article de ce podcast sur SoundCloud et sur iTunes
D'accord.
et sur mon blog, car je vais essayer de digérer tout ce que tu m'as dit pour moi-même en tirer mes propres petites conclusions. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
Une révolution utopiste.
Donc là, il faudrait que les utopistes se lèvent et...
Ouais, vraiment. Il y a plein de gens bien. Il y a plein de gens qui font des choses. Moi, je crois vraiment que le risque, c'est qu'on se sente isolé partout. Et même dans les professions qui sont décriées, hein, dans les politiques, dans les journalistes, il y a des gens qui essayent de faire des choses. Et en fait, s'ils vont pas plus loin, c'est parce qu'ils se sentent terriblement isolés et pas soutenus. Donc, il faut qu'on, voilà, c'est pour ça que je parlais de coming out, c'est qu'il faut qu'on arrive à se voir, à se compter, à se mettre en lien. Et on n'a pas tous les mêmes causes. Ça, c'est aussi un truc que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes causes. Ça peut être voilà, les végétariens, ça peut être les femmes, ça peut être l'immigration, ça peut être voilà, l'écologie. Il y a plein de choses différentes. Et en fait, il faut se mettre en lien avec ceux qui ont aussi les mêmes causes que nous. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus compliqué, notamment localement. C'est facile sur les réseaux sociaux comme ça, mais à un moment donné, on a besoin de se voir, on a besoin de faire des choses ensemble. Et tout de suite, ça va mieux.
Merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à mes questions, puis d'avoir été la personne qui a inauguré cette nouvelle série de podcasts.
Mais écoute, merci à toi.
la fin de cet épisode, je me remémore une interview que j'ai faite il y a quelques années avec Yann Le Bossé. Yann Le Bossé est un breton au Québec. Il travaille à l'université de Laval et il travaille sur le pouvoir d'agir. Et j'ai une double pensée qui arrive là. C'est la première, si je prends la situation actuelle du monde, de beaucoup de gens qui peuvent se sentir impuissants ou pris au piège. Il est important de retrouver cette sensation de pouvoir agir. Donc les travaux de Yann Le Bossé pour ça sont très intéressants. Et puis dans un deuxième temps, je me dis que si je dois construire un système, il faut bien sûr construire un système où chaque personne se sente acteur, ou en tout cas qu'il soit pris en compte. J'irai sûrement remettre mon nez là-dedans parce que j'avais été assez frustrée par mon interview de l'époque, parce que j'avais eu l'impression de mieux comprendre ce que voulait transmettre Yann après l'interview. Donc j'estime que j'ai un peu raté cette interview. Donc j'irai peut-être réexplorer ça. Et puis il y a aussi dans cette interview, cette notion de... Bon, déjà, on ne voit pas tous les mêmes choses. Et quand on parle du climat et de ce qui se passe sur la planète, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une conférence de Pablo Servigné, dont je suis ressortie... chafouine. Et en même temps, il y a cette notion aussi de willful blindness. Ça, il y a un TED qui est excellent là-dessus, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, mais que ce soit de niveau personnel ou en tant que groupe, en tant que société, on ne veut pas voir. Donc, c'est faire la part des choses entre ce qui est réel, pas réel, mais aussi des choses qu'on ne veut pas regarder en face. Et aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'on a affaire à un très grand défi planétaire. Et moi, personnellement, je vais mettre toutes mes forces dedans. Je ne sais pas encore exactement comment, mais ça, c'est mon premier pas, c'est ma première action, c'est de pouvoir réfléchir sur ces sujets-là grâce au podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. Donc, j'ai rendez-vous demain avec Emmanuel Jafflin, il est philosophe, parce que j'aimerais me demander pourquoi on fait société ensemble, pourquoi créer un système, pourquoi créer une société, et surtout, est-ce que c'est pour répondre à des besoins, des désirs, et si c'est pour répondre à des désirs, lesquels ? Donc rendez-vous est pris, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine avec cet entretien avec Emmanuel Jafflin. Très belle semaine à toutes et tous.